Le passé retrouvé, aujourd'hui la première guerre d'Indochine à travers les témoignages d'un aviateur de transport militaire, deuxième volet. J'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui M. Jacques Couder, ancien aviateur de transport militaire, qui a évoqué pour nous ses souvenirs de jeune pilote engagé dans la guerre d'Indochine en 1953. Monsieur Couder, bonjour.
Bonjour, Madame Libby.
Alors, il y a 15 jours, vous avez évoqué pour nous votre jeunesse parisienne, parlé de cette guerre d'Indochine commencée en 1946 et de votre arrivée dans ce pays tropical, peu avant la dernière bataille de Dien Bien Phu. Cette bataille, vous y avez largement participé, je crois.
Oui, du début jusqu'à la fin.
Mais vous l'avez vue d'en haut.
Je l'ai vue d'en haut, exactement.
Et vous avez d'ailleurs écrit un livre, on l'avait rappelé il y a 15 jours, La dernière Luciole, un livre à la fois passionnant et dramatique. Et est-ce que vous pourriez nous dire, avant de nous reparler de vos souvenirs, quand vous avez-vous écrit ce livre et dans quelles conditions? Pourquoi? Dans quel but?
Disons qu'au départ, je n'ai pas écrit de livre. Le livre, il s'est fait tout seul. Il y a une vingtaine d'années, en parlant avec des camarades retrouvés, on a évoqué nos souvenirs, puis oui. J'ai dit, ben moi j'ai des petits bouts de papier que j'écrivais de temps en temps, bon, puis on a nos carnets de vol, et on s'est dit, pourquoi pas raconter tout ça. Et petit à petit, je me suis pris au jeu, et puis j'ai eu des témoignages d'amis, ce qui fait que ça a fait un livre. Il a fallu que j'organise, que j'en fasse un plan, mais il n'a pas été quand même trop mal, parce que ça s'est chronologiquement... toutes les phases de la bataille se sont retrouvées dedans.
Oui, d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à se procurer ce livre imprimé aux presses universitaires de France et qui est véritablement passionnant. Vous le trouverez aussi dans toutes les bonnes bibliothèques. Alors, je vous rends la parole, Monsieur Couder. Vous avez beaucoup de souvenirs, justement, à nous raconter sur l'Indochine et sur Dien Bien Phu.
Pourquoi Dien Bien Phu? En deux mots, Navarre commande en Indochine et... il se trouve dans l'obligation, avec l'aval du gouvernement, de prendre Dien Bien Phu pour défendre les frontières du Laos et respecter l'accord d'assistance que la France a signé avec le Laos. Navarre veut prendre Dien Bien Phu, mais les chefs militaires, tous les chefs qui sont en Indochine, lui déconseillent fortement.
Où est situé Dien Bien Phu pour nos auditeurs?
Dien Bien Phu est situé à l'ouest du Tonkin, c'est-à-dire à 20 km du Laos, à 20 km
oui,
de la frontière
proche
du
de
Laos.
La frontière.
Tout proche de la frontière. Dien Bien Phu, c'est un ancien chef-lieu administratif et il est situé dans une vallée qui fait 17 km de long sur 5 de large. Il y a une petite rivière qui serpente, il y a une épaisse végétation, il y a des sommets tout autour qui culminent à 1800 mètres. En période des moussons, de la mousson, c'est-à-dire entre avril et septembre, il pleut beaucoup. En principe, on va dire 1,50 m pendant les 4-5 mois. Et la plaine est partiellement inondée. Alors les chefs militaires ne sont pas d'accord. Cogny, qui commande le Nord Tonkin, n'est pas d'accord. Parce que lui, pour lui, c'est la défense du delta, c'est-à-dire la défense de la plaine. Le général Gilles, qui commande les troupes aéroportées, donc le général Gilles n'est pas tellement d'accord. Le général Dechaux, qui commande l'aviation, n'est pas d'accord. Les chefs militaires, aussi bien le général Blanc, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, ou le général Fay, chef d'état-major de l'armée de l'air, sont pas d'accord. Lui, il conseille fortement. Et il y en a un surtout qui n'est pas d'accord, c'est le colonel Nico, qui commande le transport aérien militaire. Il a 70 Dakotas. 70 Dakotas, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Un Dakota, c'est un avion qui a été créé en 1935. Quelques exemplaires volent actuellement encore. Et c'est un avion qui transporte 2,5 tonnes de fret, pas beaucoup, qui vole à 270 km/h et qui a 8 heures d'autonomie. Dien Bien Phu est à 300 km du delta du Tonkin, 300 km d'Hanoï. Oui. Chaque rotation demande 3 heures. La cuvette est entourée de collines qui atteignent 1800 mètres. L'altitude d'arrivée est de l'ordre de 2300 mètres avec obligation de descendre dans la vallée pour éviter la DCA qui est implantée un petit peu tout autour. Les équipements radio de radionavigation sont très très insuffisants. Le temps est souvent nuageux. Il oblige les avions à percer dans des conditions très délicates, au milieu des nuages, passer dessous et puis se faufiler entre les montagnes.
Et de naviguer à vue.
Et de naviguer à vue dans les montagnes.
Oui.
Et les aérodromes du Delta, c'est-à-dire le Bac Mai et Jualam, sont saturés en permanence, aussi bien par les arrivées que par les décollages. Donc il y a des attentes, il y a des retards. Et ensuite, après l'évacuation de l'Aïcho, nous n'avons plus de terrain de déroutement. C'est-à-dire que Dien Bien Phu, une fois qu'un avion est à Dien Bien Phu, il ne peut pas aller à Chiang Kuang qui est à 220 km, il ne peut pas aller à Vientiane qui est à 380 km, il ne peut pas aller à Myong Sai. Alors les seuls terrains qu'il y a, c'est Bac Mai et Jialam, hein, au détriment de la charge marchande parce qu'on est obligé de mettre toujours, de faire les pleins d'essence. Et le colonel Nico explique que non seulement il y a Dien Bien Phu qu'il va falloir alimenter, mais il y a d'autres missions qu'il faut assurer. Il y a toute l'Indochine. Hein. Alors, il y a des missions urgentes. Il y aura l'opération Pollux en décembre. Il y aura l'attaque communiste sur le Laos en décembre, nous sommes en 1953.
Oui,
hein.
Oui.
C'est-à-dire les opérations qui vont venir. On sait qu'il y aura des opérations.
Oui,
donc,
hein,
il y aura l'opération Atlante en janvier. Il y aura une attaque sur le Hong Prabang et Myong Sai en février. Et surtout, il y a le ravitaillement des 900 postes qui sont dans le Delta. Les 900 postes qu'il faut ravitailler journellement. Et c'est l'aviation de transport qui fait ça.
Oui, puisque vous nous aviez rappelé que c'était le seul moyen
de
ravitailler.
Voilà. Alors nous avons donc 70 Dakota au départ et nous avons 5 Fairchild Packet, qui sont des avions qui ont été prêtés par l'Amérique. Et ce 20 novembre 1953, nous trouvons à effectuer cette opération que l'on va appeler Castor. Cette opération va être déclenchée par Navarre. Les militaires obéissent. Cette opération va durer 3 jours. Alors, ça va consister à prendre Dien Bien Phu, parce que Dien Bien Phu, il ne faut pas oublier que Dien Bien Phu, dans tout le nord tonkin, dans les montagnes, tout le Viet Minh est là, toute l'armée Viet Minh est là. Et bien sûr, ils occupent plus ou moins Dien Bien Phu, puisqu'on n'a aucune présence là-bas. Hein, on n'a qu'une présence qui va être une présence à l'Aïcho, à 100 km de Dien Bien Phu. Alors, elle va consister à larguer 6 bataillons pour prendre Dien Bien Phu. 5 rotations vont avoir lieu, 2 rotations le matin et le soir le 20 novembre, le 21 novembre et le 22 novembre, il y aura 1 rotation. 1 rotation à chaque fois avec une formation de 65 Dakota. C'est-à-dire toute la flotte de transport fait l'opération. En parallèle, nous avons des largages qui s'effectuent, des largages lourds qui s'effectuent par paquette. Nous avons la nuit. Nous assurons des éclairages nocturnes. Et puis, bien sûr, il y a l'appui aérien de la chasse et du bombardement.
C'est d'ailleurs en novembre 1953 que le général Bijard va être parachuté pour une première fois sur Dien Bien Phu.
Oui, les bataillons, je ne veux pas vous en donner la liste, il y a eu 6 bataillons, mais il y a eu Bijard qui a été parachuté d'ailleurs le 20 novembre, en premier, donc les parachutistes coloniaux, parce qu'il y avait 2 DZ à Dien Bien Phu, donc sur une DZ...
Expliquez DZ.
Une zone de saut.
Voilà,
Dropping zone.
Oui, c'est le mot anglais.
Voilà. Alors donc, le parachutage de Bijard, de Bréchignac le 20 novembre. L'après-midi, le premier bataillon colonial commandé par Souquet. Alors à chaque fois, un bataillon, c'est environ 700 hommes. Hein. Et puis, il y a divers éléments qui vont être parachutés, et y compris une antenne chirurgicale parachutée. En principe, il y a 25 hommes. Le 21 novembre, donc, un bataillon de légionnaires et des parachutistes coloniaux de Touré l'après-midi. Et le 22 novembre, les parachutistes vietnamiens de Botel. Dien Bien Phu a été conquis. Il y a au sol 4750 hommes. Il y a eu 16 tués, 74 blessés. Et 240 tonnes ont été larguées pendant ces 3 jours. Les pertes de Viet Minh, je crois, sont de l'ordre de 115-120.
Donc, la cuvette est prise. Et je voudrais simplement rappeler que Pierre Schoendorfer a fait un film que sans doute beaucoup d'entre vous avaient vu, s'intitulant Dien Bien Phu, qui ne va commencer qu'avec la véritable bataille en mars 1954. Pour la circonstance, Georges Delerue a composé un très beau concerto qui rythme tout le film, le concerto de l'adieu, dont nous allons entendre les premières mesures. Je suis avec Monsieur Jacques Couder qui rappelle pour nous ses souvenirs à Dien Bien Phu en tant que transporteur militaire aérien. Alors Monsieur Couder, vous nous avez parlé de la conquête de Dien Bien Phu. Comment les événements vont évoluer ?
Nous allons avoir déjà une période d'isolement. Cette période d'isolement va durer 3 jours. La piste d'atterrissage qui existe à Dien Bien Phu, malheureusement, elle est pleine de trous et il va falloir la remettre en état. Le ravitaillement va s'effectuer par largage, parce qu'il faut ravitailler ces 6 bataillons qui sont au sol et ces éléments divers. Ce ravitaillement est effectué par l'aviation militaire, des Dakota et des Paquettes, et aussi par l'aviation civile.
Qui et vous participez à ces opérations.
Bien sûr, qui a des C-3 et des Bristol. On va larguer 100 tonnes par jour, jusqu'à la remise en état, et le 25 novembre, le premier Dakota va se poser à Dien Bien Phu. Ça va être le début d'un balai incessant de Dakota pour renforcer la garnison, parce qu'on l'a conquis, maintenant il va falloir créer la base aéroterrestre. Il va falloir la ravitailler par aéroportage, par largage, va falloir amener des vivres, des munitions, de l'armement, ce sont des canons, des chars, tout ça s'est démonté mais ça arrive, par avion, des véhicules, des jeeps, des GMC. Et on va transporter aussi de 28 800 grilles PSP, ces fameuses grilles que l'on connaît qui sont des grilles en acier avec des trous qui s'agrippent les unes aux autres, qui vont servir à recouvrir la piste. C'est une piste en terre à Dien Bien Phu. On va la recouvrir avec ces grilles. Il y a 15 000 piquets. Le total fait 510 tonnes. 300 Dakota à 3 heures de vol, ça fait 10 000 heures de vol, uniquement pour faire la piste. Alors ça, c'est la mission qui va être journalière. Les missions de ravitaillement vont être journalières, donc du 25 novembre jusqu'au 13 mars. La deuxième mission du transport, parce qu'il n'y avait pas que ça, il va falloir assurer la relève des parachutistes que l'on a largués et les remplacer par des fantassins. Alors ces fantassins, on va les trouver en premier dans la garnison de Laïcho. Laïcho est une petite, c'est un bourg, qui est dans les montagnes, dans le nord de Dien Bien Phu, à peu près à 100 km. Et c'est une position stratégique qui existe depuis 1951. C'était De Lattre qui avait installé une base aéroterrestre. Hein, c'est une petite garnison forte de 5000 hommes, des réguliers et des partisans. Mmh. Voilà. C'était le seul bastion de la présence française dans le nord-ouest du Tonkin. C'était l'ultime rempart contre une invasion Viet Minh contre le Laos. Sa situation en zone montagneuse est devenue indéfendable Et le haut commandement a décidé son repli sur Dien Bien Phu. C'était prévu et cette opération va s'effectuer en trois phases. Une première phase qui va consister à envoyer un groupe mixte de 700 partisans thaïs. Ils vont partir de Laïcho le 15 novembre, c'est-à-dire avant Castor, pour rejoindre Dien Bien Phu par la piste. Ils vont être accrochés par des éléments viet et 400 vont arriver seulement sur les 700. 400 vont arriver à Dien Bien Phu. Ils arriveront vers le 23-24 novembre. La deuxième phase de l'évacuation de Laïcho, ça va être le rapatriement par Dakota, 183 rotations, entre Laïcho et Dien Bien Phu. On va récupérer les troupes du lieutenant-colonel Trancard, qui sont environ 2000 soldats. Et la troisième phase, qui va être la plus délicate, c'est le groupe mixte d'intervention qui était composé de maquisards, de partisans, qui ont défendu Laïcho pendant cette opération aérienne que l'on a faite, parce que c'est réellement dans les montagnes, et ils sont 2400. Donc une fois que les avions sont partis, ils vont rejoindre Dien Bien Phu par la piste. Sur les 2000, c'est-à-dire il y a 20 compagnies, hein, sur les 2000 partisans thaïs, il y en a 400 qui vont arriver à Dien Bien Phu. Ah, il y en a 2000 qui vont être massacrés le long de la piste. Oui. En évacuant Laïcho, on va ramener 4 bataillons sur Dien Bien Phu. Il va y avoir un bataillon vietnamien, il va y avoir le 2e tabor marocain, il va y avoir 2 bataillons thaïs. Et on va rapatrier en décembre 3 bataillons para qui avaient sauté, le 1er BPC, le 6e Bijar. Hein, on va les ramener sur Hanoï, ils feront d'autres missions, et on va ramener des fantassins. Alors les fantassins du colonel Gaucher, c'est-à-dire les légionnaires et les Algériens, le 3e RTA, vont arriver, 3 bataillons vont arriver vers le 15 décembre. En fin du mois de décembre, un autre bataillon de tirailleurs algériens, le 5-7 RTA. Dès début janvier, on va transporter le groupe de marche numéro 6, composé de 3 bataillons, 2 bataillons de Légion et un bataillon algérien.
Et est-ce que vous transportiez surtout des hommes, du matériel, de la nourriture?
Il y avait tout. On transportait, on parachutait, il y avait tout.
Et chaque jour, vous partiez?
Chaque jour. Il avait été prévu 76 tonnes et 90 tonnes par jour. Fin janvier, on va rapatrier le bataillon, le 5e BPVN, le bataillon vietnamien qui avait sauté le 22. On va les rapatrier. Alors, qu'avons-nous au 13 mars? Parce que le 13 mars étant le début officiel de la bataille. Le 13 mars, nous avons 13 bataillons en place à Dien Bien Phu.
Ce qui fait combien d'hommes à peu près?
Sensiblement 12 000, parce qu'il y a les bataillons plus des éléments divers. Mm-hmm. Hein, il y a de la gendarmerie, mm-hmm. il y a tous les services hein, mm-hmm. qui sont là. Bon. En face de ça, que fait le Viet Minh? Giap, qui commande, qui est le général en chef du Viet Minh, va, à partir du moment où il va comprendre qu'on s'installe bien, fort de sa défaite qu'il a subie à Nazan l'année mm-hmm. d'avant, il va se préparer. Il va être aidé par la Chine et par la Russie en tant que matériel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À partir du début décembre jusqu'au 24 janvier, il va y avoir 5 divisions Viet Minh qui vont converger vers Dien Bien Phu. Et ils vont prendre position sur les hauteurs. On est au courant, plus ou moins, mais enfin, on ne croit pas qu'on peut amener des canons dans les montagnes sans moyens. Eh bien, les Viet, ils ont les moyens. Ils ont 75 000 coulis qui sont là et qui vont, avec des cordes, ils vont tirer les canons. Ils vont tirer dans les montagnes. Et ils vont faire de ce qu'on appelle de la montagne. Sous les couverts, on ne voit rien. Hein? Alors, quelles sont les forces en présence? Alors, nous avons, nous, 12 bataillons au sol. Et les Viet en ont 33, c'est-à-dire presque 3 fois plus. Nous avons donc 12 000 hommes. Eux, ils en ont, on va dire, 105 000. Nous avons 24 canons de 105. Ils en ont autant. Nous avons 4 pièces de 155. Ils ont 18 canons de 75. Nous avons 16 mortiers de 120. Ils en ont 20. Ils ont des mortiers de 80 aussi. Alors, nous avons ce qu'ils n'ont pas. Nous avons 10 chars. Nous avons 9 birkats et 125 véhicules qui vont de la Jeep au GMC, tout ce que l'on peut compter comme véhicules. Donc, nous avons ça, mais ça, c'est dans la vallée.
Et tout autour, sur les hauteurs?
Et tout autour, eux, ils n'ont pas d'avion, mais ils ont 76 canons de 37 et ils ont 100 mitrailleuses de 12-7. Tout ça, c'est autour, c'est dans la montagne, et les armes pointées vers le sol. Alors voilà quelles sont les positions. Et cet état, et il amène le constat suivant, c'est que les forces du corps tranché sont groupées dans un périmètre restreint et découvert, et les forces ennemies sont sur les hauteurs, invisibles, éparpillées, et il y a 100 000 bonhommes autour.
Et c'est à ce moment-là que commence le film de Schoendorfer.
Alors nous en arrivons au 13 mars. Déjà le 11 mars, il y avait eu quelques obus qui étaient tombés sur la piste et qui avaient détruit un paquet qui était en panne. Alors on a trouvé ça pas inquiétant du tout. On a dit tiens, bon, les Viettes, ils essayent leurs canons, tout ça. Je parle des gars qui étaient au sol. Et les obus ont commencé à tomber un petit peu, le 12 aussi. Et le 13 au matin, ça s'est un petit peu amplifié. Alors ça s'est amplifié dans le sens que les avions, on se posait toujours le 13 au matin, et là il fallait faire vite parce que il y avait des obus qui tombaient à droite à gauche comme ça. Donc on considérait que la situation n'était pas désespérée, mais elle était inquiétante. Et surtout que depuis la veille, le Viet avait fait savoir qu'il lancerait son attaque le 13 mars à 17h.
Il vous avait prévenu.
Ah, il avait prévenu. Ils avaient même donné l'ordre d'évacuer aux civils, parce qu'on avait ramené des civils, des familles, qu'on avait ramené de l'Aïcho, qui vivaient sur le camp retranché avec avec les combattants.
Est-ce que c'était les Méos dont vous parlez dans
c'était
votre livre.
C'était les Méos.
Et qui sont là avec leurs femmes, leurs ânes, ont leur vie quotidienne installée dans le camp.
Alors le Viet Minh est au courant et il demande à ce qu'on évacue. Bon, en réalité, ils évacueront pas puisque j'ai un témoignage comme quoi un avion qui avait été abattu là-bas, l'équipage s'est retrouvé parmi ces Méos et ses familles. Alors le 13 à 17h05, tout le monde attend. Et bien sûr, les Dakota, jusqu'au matin, jusqu'à à peu près 2h de l'après-midi, se sont posés. À partir de 2h, on ne pouvait plus se poser. Il commençait à pleuvoir beaucoup d'obus. Ce qui fait qu'on a commencé les parachutages. Et à 17h, alors, une terrible préparation d'artillerie s'est abattue sur Dien Bien Phu, clouant la garnison dans ses abris. Tout le monde s'est planqué. Il est tombé sur Dien Bien Phu, donc principalement le camp principal, principalement la piste et principalement Béatrice, qui est un point d'appui tenu par les légionnaires dans le nord-est.
Oui, les collines autour de Dien Bien Phu portent des noms féminins.
C'est cela. Alors, c'est sur Béatrice, les légionnaires sont enterrés et courbent le dos sous une pluie d'obus. Il va tomber 9000 obus en 1h30. C'est-à-dire, s'il en veut, presque 2 obus à la seconde. Ça commence à 17h05. À 18h, il y a un obus qui tombe sur le PC de la Légion de la 313 et qui décime tout l'état-major du bataillon. Il n'y a plus de chef. Un quart d'heure plus tard, il y a un obus qui traverse l'abri où il y avait le poste de commandement du GM9. Le colonel Gaucher, qui était le grand patron de l'infanterie, il est tué. Tout l'état-major du GM9 est décimé. La préparation d'artillerie, elle s'achève vers 18h30. 6 bataillons Viet s'élancent à l'assaut du point d'appui de Béatrice. Les légionnaires sont enterrés, ils ne peuvent pas répondre. Hein. Et Béatrice est déclarée perdue le 14 mars à 2h du matin. Le 14 mars au matin, il y a beaucoup de morts et de blessés sur Béatrice. Une trêve est accordée jusqu'à midi.
Pour évacuer les blessés.
Voilà. Il y avait 475 légionnaires, il y en a plus de 300 qui sont morts. Les autres sont blessés, plus ou moins grièvement. Les moins grièvement sont faits prisonniers et sont évacués. C'est-à-dire que quand on va aller sur Béatrice pour récupérer, on va récupérer 16 blessés. Alors les équipes, pendant ce temps-là, les équipes du génie s'affairent pour réparer la piste. Et vers 11h du matin, pendant la trêve, les birkats qui étaient dans le bout de piste là, ils essayent de se sauver parce qu'ils ont pris pas mal d'obus. Et il y a 5 avions qui vont réussir quand même à décoller. Et les Viettes, voyant les avions décoller, ont recommencé leur tir d'artillerie. C'est-à-dire la trêve a été rompue. 5 birkats vont décoller et vont se réfugier à Xiangkwang. Alors, nous sommes le 14. À 15h, on va larguer un bataillon de parachutistes vietnamiens, le 5e BPBN. On va les larguer pour remplacer le bataillon de Légion qui a été décimé. Où il n'y en a plus. Il y a un Dakota de l'Anjou qui va réussir à se poser dans l'après-midi, alors que les Dakota, ils parachutent. Il va réussir à se poser, il va récupérer 2 équipages dont les avions avaient été détruits la veille, le 13. Et pendant que les parachutistes vietnamiens, on les largue, à 17h, le tir d'artillerie recommence par le fait des Viettes. Et ce coup-ci, il est centré sur Gabriel. Gabriel, c'est un point d'appui qui se trouve au nord de Dien Bien Phu, au nord de la piste, à peu près à 5 km de la piste. Et cette place forte est tenue par les Algériens, le 5-7 RTA. Un B-26 est abattu entre-temps. À 2h30 du matin, l'ennemi prend pied sur la face nord-ouest de Gabriel et à 5h, les 3/4 des effectifs du 5-7 RTA ont été tués ou blessés. Il va y avoir, je crois, sur ils étaient 850, il y a 503 morts. À 15h, le 15 mars, à 8h du matin, Gabriel est considéré comme perdu. Bon, je vous ai fait un état de ces 2 points d'appui qui ont été, en 2 nuits, disons, en l'espace de quelques heures, ils ont été éliminés. Alors nous, je ne sais pas au sol comment on le prend, on a toujours confiance, mais nous, les aviateurs, on sait que Dien Bien Phu, c'est fini.
Donc, dès le 15 mars...
Dès le 15 mars, nous, oui. On le sait. On en est conscient. Moi, j'en étais conscient.
Ainsi, M. Jacques Coudert, le 15 mars au soir, 15 mars 1954, vous étiez persuadé que Dien Bien Phu était perdu. Et pourtant, la défaite de Dien Bien Phu a lieu presque 2 mois plus tard, le 7 mai 1954, ce qui signifie que pendant presque 2 mois, vous allez continuer à parachuter, à larguer, à risquer votre vie quotidiennement. Mais cette période la plus tragique, la plus dramatique, si vous le voulez bien, nous la verrons dans 15 jours pour une nouvelle émission du Passé retrouvé. Au revoir, Monsieur Coudert, au revoir, chers auditeurs.